Bien sûr, j'enseigne aussi de temps en temps, donc vous voyez, c'est une activité plus autistique.
Je
vois.
Ce
sera
de me dire que je suis merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être là pour honorer nos auditeurs. Ma première question, docteur Amaïzo, ça s'adresse à vous sur le plan économique, vu que vous êtes un expert dans le secteur économique et vous appartenez à plusieurs think tanks qui se spécialisent sur la politique et l'économie africaine. Je voulais vous poser une question qui se place dans le contexte de ce nouveau siècle, ou plutôt de ces 10 dernières années. Vous constatez que le modèle économique des pays occidentaux a plus ou moins échoué, en quelque sorte parce qu'il y a plusieurs économies occidentales qui sont en train de s'effondrer depuis le début des années 2000. Pensez-vous en fait que l'échec de ce modèle économique va négativement ou positivement affecter l'Afrique? Pensez-vous qu'il y a des opportunités et des meilleures chances à l'Afrique pour compétir avec l'Occident, vu que l'économie de cette dernière est beaucoup plus faible? Ou pensez-vous que c'est beaucoup plus ça aurait un effet domino et ça affectera de plus belle les pays africains?
Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. La première, qu'il faut d'abord clarifier. Quand vous dites que les économies occidentales ont échoué, je crois qu'il vaut mieux vous placer sur la durée. Les économies occidentales sont essentiellement des économies capitalistes, c'est-à-dire qu'ils sont basées sur le libre-échange, libre concurrence. Et malgré ça, si vous regardez leur histoire, ils n'ont fait essentiellement que du protectionnisme, surtout au XVIIIe et XIXe siècle. Donc ce sont des économies qui vous affichent un certain nombre de choses en termes des idées, et dans la pratique font autre chose. Alors quand vous dites qu'ils ont échoué, non, ils n'ont pas échoué, ils ont des difficultés. Ils n'ont pas échoué parce que c'est un système de vase communicant dans lequel, quand vous n'avez pas suffisamment de richesse, mais que vous avez la force, alors vous allez prendre la richesse ailleurs, essentiellement, vers les pays les moins forts, et notamment l'Afrique en général, les pays dans lesquels nous sommes, francophones en particulier. Donc comprenez bien qu'il ne faut pas séparer les gens, c'est le même système, dans lequel il y a des vases communicants. Il y en a qui siphonnent, et il y en a qui en fait perdent. Mais là, le jeu consiste à mettre des décideurs, pas en Occident qu'en Afrique, qui jouent le jeu. Et si vous avez des décideurs en Afrique qui ne sont pas nécessairement ceux choisis par le peuple, donc qui n'ont pas été élus démocratiquement, vous comprenez que ceux-là, avec beaucoup de zèle d'ailleurs, vont organiser le siphonnage parfait de l'ensemble de l'Afrique, une bonne partie des matières premières non transformées, pays qui n'est pas d'industrialisation, donc pas de transformation, donc pas d'emploi, donc pas de pouvoir d'achat, pour justement servir le Nord, et en contrepartie, ils reçoivent cette force-là, sous forme militaire, sous plusieurs formes, des pouvoirs des puissants, au niveau des relationnels, qui leur permettent de se maintenir à ce pouvoir, et à ce jeu, il faut bien que la plupart des Africains le comprennent d'abord, avant de pouvoir s'y atteler, pour pouvoir le modifier. Donc ça étant dit, la deuxième partie de votre question, c'est sur l'économie. Est-ce que les difficultés que rencontrent ces pays aujourd'hui, notamment européennes, et peut-être même les États-Unis, voire le Japon, est-ce que ça aura des conséquences sur l'Afrique? Bien sûr. Bien sûr, parce que nous avons organisé une économie depuis les années, en gros, de l'indépendance, le décentenaire, sur la tuyauterie, sur l'extraversion. Nous ne transformons pas nos produits, donc nous le vendons à 60-70% vers les pays occidentaux. Deuxième élément beaucoup plus grave, nous avons carrément mis une croix sur l'économie de proximité, que je défends dans mes livres, et un de mes paradigmes de fond, c'est-à-dire que nous produisons pour l'extérieur. Pour être précis, au lieu de continuer à faire de l'igname, des pommes de terre, des patates douces, ou des carottes, ou des fruits de proximité, nous faisons essentiellement des choses comme le coton, qui ne se mange pas d'ailleurs en parenthèse, et donc nous devenons dépendants des prix qui sont fixés aussi à l'extérieur. Les Français des prix de la terre première sont à Chicago, chez vous aux États-Unis là-bas. Donc cette conjonction économique, c'est qu'en fait, nous n'arrivons pas à organiser ce qu'on appelle les marges de manœuvre économiques. D'ailleurs, nous n'en avons pas, hein, pour la plupart des pays. Et quand nous en avons, alors nous dépendons seulement des fluctuations des prix. C'est le Nigeria avec le pétrole, c'est le Botswana avec le diamant. Alors, on peut en citer plusieurs comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va falloir donc comprendre ce système-là, et à partir du moment où on le comprend, modifier le paradigme en profondeur. Alors, je viens sur la troisième partie de votre question. Quand vous dites qu'il faut compétir, mais attendez, c'est toute une théorie qui est dite aujourd'hui. Nous, en tant qu'Africains, en tant que peuple noir, nous devons comprendre que nous ne sommes pas fondés sur le fait de battre le voisin. Nous ne sommes pas fondés sur le principe d'aller faire mieux que l'autre nécessairement. Nous sommes fondés sur des bases de solidarisme, que je développe aussi dans mon dernier bouquin. Nous sommes fondés sur les bases relationnelles, la cohésion sociale, le lien social, le tissu social, et nous ne souhaitons pas trop, dans nos principes généraux, dans nos valeurs africaines, même les plus anciennes, nous ne souhaitons pas que quelqu'un reste sur le carreau. Donc nous tentons toujours de ramener quelqu'un. Nous trouvons un consensus, peut-être bien, peut-être moins bien, mais nous essayons de le ramener. Toute la palabre africaine est basée dessus. Donc le fait d'avoir mis de côté depuis les 500 ans de colonisation, voire même 600, ce principe-là, a fait que nous partions sur des chemins qui sont complètement erronés en économie, et nous devenons des perroquets, nous devenons des gens qui imitons, qui mimons ce que font l'autre, et bien sûr, ça ne va pas dans l'intérêt de 60-70% de notre population, notamment celle qui est dans les zones rurales, notamment les paysans. Et donc, quand vous mettez les trois schémas en place, vous devez, et nous devons nécessairement nous atteler sur le travail soi-disant intellectuel, de revoir si le paradigme sur lequel nous voulons fonder une société de confiance puisse fonctionner. Et à partir de là, oui, il faut changer le fondement d'abord sur lequel nous basons. Et je reviens à votre point, il ne s'agit pas nécessairement d'aller en compétition. La preuve est que la Chine, qui a 5000 ans derrière elle aussi en termes de millénaire, a choisi un autre modèle de faire une coopération gagnant-gagnant, de faire une coopération dans laquelle nos ignames sont troqués contre tel ou tel produit manufacturier, notamment les motos actuellement. Et donc, il n'y a pas de valeur monétaire en tant que telle d'argent qui circule, sauf les compensations. Et ça se passe pas trop mal, puisqu'en moins de 10 ans, en termes d'infrastructure, les Chinois ont fait ce que les Occidentaux n'ont pas réussi à faire de moitié en 50 ans.
Je vois. D'accord. Donc, merci beaucoup, docteur Anaïdo, pour vos réponses. En fait, j'ai souligné quelque chose dans votre réponse qui est assez intéressante. Vous avez parlé de... vous avez indiqué le fait que nos régimes, la plupart des gouvernements de nos pays, soient complètement des marionnettes, du fait qu'ils n'ont pas été élus par la population et qu'ils collaborent beaucoup plus pour satisfaire la puissance étrangère afin de pouvoir bénéficier de leur soutien militaire, financier et politique. Donc, si je comprends bien, cela voudrait dire que la démocratie est, selon vous, l'un des fondements principaux pour la réussite d'une économie. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un contraste quand on regarde, par exemple, le cas de la Chine, qui n'est pas un pays démocratique, par exemple?
Alors, là encore, vous posez deux problèmes. Le premier problème, c'est le mot « démocratie ». C'est un mot que je n'utilise en fait pas souvent, parce qu'en Afrique, elle a été mal utilisée. On parle de démocratie, on parle de démocratie falsifiée, démocratie usurpée. En réalité, il vaut mieux parler de durité des urnes. Parce que la démocratie en soi, il s'agit simplement sur un système représentatif que tout le monde ne peut pas prendre des décisions en même temps. Alors nous choisissons un de nos représentants ou plusieurs de nos représentants qui sont censés nous représenter et donc défendre nos positions. À ce moment-là, pour pouvoir le faire, il y a des mécanismes dont le système qui permet de compter des voix de chacun, et il faut que les voix de chacun comptent réellement pour qu'une majorité qu'on choisit soit simple, soit qualifiée, permette d'avoir des gens qui nous représentent essentiellement. Et d'ailleurs, si ces gens ne nous représentent pas, alors on a le choix de les enlever et de les modifier par quelqu'un d'autre. Voilà le principe. La réalité est que ça ne se passe pas comme ça. La réalité est que les trois quarts du temps, au moment justement de faire le comptage, bon, ça ne se passe pas. Soit parce que nous ne sommes pas capables, comme au Sénégal récemment, d'afficher immédiatement à la sortie des urnes et du bureau de vote les résultats, qui doivent être remis tout de suite par la communication radio, télé, etc. Alors nous attendons et nous croyons, conseillés par les Occidentaux, bien sûr, les CENI, les soi-disant cellules, positions, mettez le mot que vous voulez, électorales, nationales, dites indépendantes, qui ne le sont pas. Et partout où ils sont, partout il y a des problèmes. Voilà la première partie de votre question. Donc il s'agit d'aller vers la vérité des urnes. La deuxième partie de votre question, on vous dit que oui, le cas de la Chine, comme d'autres, écoutez, vous posez le problème, est-ce qu'il faut d'abord aller vers, utilisons le mot démocratie ici, ou bien un système démocratique qui va favoriser tout un ensemble de choses qui vont dans le sens de l'élection, de la liberté, etc. Ou bien faut-il d'abord assurer que les gens mangent à leur faim et donc assurer un développement économique qui permet une certaine autonomie et à partir de cette autonomie, petit à petit, laisser la démocratie prendre son ampleur. Et certains pays ont choisi la démocratie soi-disant au départ, ou ne l'applique pas, elle est usurpée, et vous connaissez les résultats dans la plupart des pays africains, francophones en particulier. Prenez le cas du Rwanda, prenez le cas, vous avez cité vous-même de la Chine, ou même de la Russie, voici des démocraties qui ont d'autres façons de fonctionner, parce que ne doute pas qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a une, c'est une sorte de centralisme démocratique en Chine, par exemple. Prenez le Rwanda, bien sûr, le monsieur qui est là, Kagame, le président, n'est pas prêt de partir, sauf que lui-même a dit qu'après ses deux mandats, il partirait. ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut bien faire attention qu'à vouloir faire de la démocratie alors qu'on ne mange pas, on peut arriver exactement au résultat contraire de ce qu'on fait, et on peut aussi falsifier la représentativité. Qu'est-ce que vaut au fond une voix de quelqu'un qui n'est pas conscient de choisir tel ou tel individu, et si ça doit se limiter au choix de marabout, comme ça se passe dans certains pays, ou le choix du chef de village qui fait pression sur tout le monde, ou encore sur un grand président qui a pu distribuer de l'argent dans un village, auquel cas celui qui va expliquer de quoi il s'agit ne pourra pas, en fait, emporter le vote. Rappelez-vous que, on ne va pas citer ce nom, mais un grand homme politique du Togo, hein, ancien premier ministre de son État, était dans sa propre région, a fait campagne en expliquant de long en large ce qui était bon pour le Togo, et un chef de village lui a répondu, écoutez, monsieur, vous n'avez pas encore défendu ou présenté le nombre de vaches, de moutons, de bœufs qui vont permettre de faire la grillade sur laquelle on va se baser pour faire votre élection.
Donc, docteur Amélie, quand vous pensez que, par exemple, il faut, par exemple, faire certaines situations sur le terrain, par exemple, pouvoir satisfaire les populations, les demandes des populations, vous pouvez parler de « on ne peut pas faire la démocratie quand on ne mange pas à sa faim », donc cela voudrait dire qu'il faudrait que les populations soient plus ou moins à l'aise avant de penser à ouvrir le système. Mais dans certains pays comme la Libye, par exemple, on pourrait remarquer que la Libye avait un niveau de vie assez élevé, mais cela n'a pas empêché plus ou moins des troubles politiques qui ont conduit à la chute du régime de Kadhafi. Donc ne pensez-vous pas quand les populations sont opprimées et quand le système est trop coercif, même si les populations mangent à leur faim, il n'y a toujours pas satisfaction et qu'il peut y avoir trop d'instabilité politique?
Alors vous avez utilisé le mot exact, le mot de trop. C'est ça qui est important. D'abord, la Libye, je connais bien pour avoir eu quelques contrats là-bas, et je vous garantis que quand vous êtes dans les zones rurales, quand vous êtes dans les espaces qui ne sont pas les grandes villes ou la capitale, il existe une démocratie de proximité. Les soi-disant que les Occidentaux appellent les tribus sont en fait des régions, miniatures ou un peu plus grandes suivant leur découpage, et c'est souvent clanique, et ils choisissent leurs représentants. Et je vous garantis que ce représentant, s'il ne défend pas la communauté l'enlève. Et ça se passe relativement violemment s'il n'accepte pas. Cette démocratie au niveau local, participative, comme je pourrais dire, ne fonctionnait pas au niveau de la capitale, ne fonctionnait pas au niveau des grandes villes, notamment dans les centres pétroliers. Et donc, le guide libyen de Gadel Kadhafi jouait à celui qui distribuait. Plus ou moins bien, puisque des villes comme Benghazi ou certaines régions ont été opprimées. Les Noirs au sud, au fond, ont travaillé pour lui, mais n'ont pas eu de représentativité. Maintenant, quand vous dites que c'est à cause de ça que ça a changé, ce n'est pas vrai. Il y a eu des problèmes de liberté assez profonds. Il va falloir, bien sûr, améliorer. Il a fait une révolution de plus de 30 ans. Il a oublié la partie liberté. Pourquoi? Parce qu'il pensait que ça va le faire sauter. Et ce n'était pas faux. Mais attention, il y a eu une intervention pratiquement non régulière des Occidentaux, notamment l'OTAN, dans ce pays, pour avoir un résultat qui n'est toujours pas probable, puisque aujourd'hui, on parle de fédération, et puis même une partie a fait sécession dans le cadre de la fédération. Donc, pour le moment, la solution qui est proposée, à part de dire qu'au fond, il y a une liberté, on ne voit pas vraiment la solution, d'ailleurs, en tant que tel. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas mettre des priorités. Il faut que les deux aillent ensemble. Mais il ne faut pas l'oublier. Le problème, c'est qu'on oublie souvent l'économique, et on fait primer le politique. La plupart des anciens africains qui ont fait la séance dans toutes ces grandes associations qui militaient pour l'avènement de l'indépendance, sortie de l'économie, etc., etc., regardez-les tous, pour la plupart, ils ont mis du côté de l'économie, soit ils l'ont oublié, soit ils ne le savaient pas. Et d'ailleurs, les trois cas étaient souvent des littéraires. Donc, du coup, ce côté économique a carrément été mis de côté. Le problème, ça nous faisait rêver. Ils pensaient qu'il suffisait d'annoncer, de dire, et ça se réalisait. C'est ça que vous retrouvez d'ailleurs dans le système des Nations Unies en général. Ça parle beaucoup, mais quand vous voyez les réalités, vous vous trompez. Kofi Annan est allé, vous avez vu en Syrie, beaucoup de bruit. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ce sont des mécaniques relativement lourdes qui ne fonctionnent pas sur, disons, l'authenticité dans la façon d'organiser les choses. Ils travaillent de manière assez groupée pour des grands groupes, dans le conseil d'administration généralement, qui oriente l'ensemble du système. Alors, pour revenir à la Libye, bien sûr, il a fallu avoir un changement. Le changement tel quel? C'est que le Libyen lui-même, Gadel Kadhafi, s'est trompé sur ses objectifs. Ses objectifs nobles au départ, c'était justement de soutenir les populations. Sauf qu'à un moment donné, il a modifié ce changement et il s'est mis à soutenir qui? Les dictatures africaines. Pourquoi? Parce qu'il voulait rester au pouvoir lui-même. Et ces dictatures, dans tous les sens du terme, c'est là qu'il fermait les yeux sur un certain nombre de comportements qui n'allaient plus dans le sens de la démocratie. Et très rapidement, ça l'a touché lui-même. Et du coup, il s'est renforcé dans un système de plus en plus autocratique, de plus en plus autoritaire, qui a justement, comme vous l'avez dit, trop, c'est trop, donc les populations, malheureusement, 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 vous vous placez où vous voulez, ont eu un soutien occidental en pensant qu'il fallait s'arrêter juste une fois qu'ils auraient changé le monsieur de place, sauf qu'aujourd'hui, les occidentaux demandent qu'on leur paye en retour sous forme pétrolière les dettes qu'ils ont dû faire et sur lesquelles ils rajoutent beaucoup d'argent. Et là encore, les mêmes qui ont demandé le soutien extérieur, ce sont les mêmes aujourd'hui qui, au fond, ne le souhaitent plus en disant qu'il faut quand même qu'on s'occupe de nos propres populations. Mais la réalité, c'est que quand vous visitez la plupart des villes qui ont été bombardées aujourd'hui, les gens ne mangent pas. Hein. Bien sûr, donc il faut bien comparer. N'oubliez pas que là-bas, on soigne les gens gratuitement, vous avez votre bourse d'études gratuitement, vous fonctionnez la plupart du temps sans trop de problèmes. Un chauffeur, comme un grand patron, mangeait dans le même hôtel 3, 4, 5 étoiles à sa femme. Malheureusement, il n'y avait pas la liberté. Donc il y a donc une erreur dans la conception d'amener la société vers un bien-être, un mieux-être, parce que le Kadhafi en question n'a pas pensé donner la main. C'est pas qu'il a oublié, il n'avait pas le conseil. Son fils a fait l'Autriche ici qu'on connaît bien. Et son fils l'a dit mille fois. Il a même mis les gens de son fils en prison. Vous voyez ? Donc vous voyez bien qu'il y a un problème de fond avec certains de ces dirigeants qui n'arrivent pas tout simplement à passer la main. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas aux générations futures et surtout qu'ils se croient indispensables. C'est ça qui est encore beaucoup plus grave. De cette indispensabilité, on n'en a pas besoin en fait.
En parlant d'alternance politique, docteur Amaïzo, je pense que vous allez nous ramener au Togo, qui est notre pays comme à nous deux. Vous savez, par exemple, pensez-vous que l'alternance se limite à un changement du président de la République ou bien à un changement de régime togolais? Parce que dans le cas du Togo, nous avons eu un changement de personnalité. Son fils a été dirigeant, et demain, il a filmé et DTD, et son fils l'a remplacé. Et pour les gens du RPG, c'est déjà un fondement suffisant pour parler d'alternance politique. Mais pensez-vous qu'on peut se parler d'alternance parce qu'il suffit que, quand un leader politique cède le pouvoir à une autre personne de son parti politique, pensez-vous que si Kadhafi avait passé la main à son fils ou à un autre membre de son parti politique, il aurait eu alternance légitime et valable?
Alors, commençons par la Libye. Le mot alternance est bien défini dans le dictionnaire, c'est un changement, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau groupe vient. Là, vous êtes en train de me dire que des individus, Kadhafi fils va prendre Kadhafi père. Non, il s'agit de changements d'individus. Fort, merci, va prendre la place de son papa, ce sont des individus. Ah, bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand ce sont des individus? L'ensemble du système reste en place. L'ensemble d'un système patrimonial qui consiste tout simplement à s'approprier une large partie des richesses du pays reste en place, et au contraire, se protège 2, 3, 4, 5 fois plus, en sachant qu'ils étant beaucoup plus jeunes, ils vont rester beaucoup plus longtemps. Il n'est pas question pour Fon Yassine au Togo de quitter le Togo avant 30, 40, 50 ans. Il faut que les Togolais se mettent ça bien dans la tête. Et donc tous les systèmes et astuces vont être organisés pour le rester. Donc la meilleure des astuces, c'est quoi? C'est d'utiliser justement la division de l'ensemble des oppositions de manière générale pour faire en sorte qu'il y ait toujours un ou deux ou trois qui n'ont souvent pas de légitimité dans les populations, donc ils n'ont pas de majorité, ils n'en sont même pas représentatifs souvent pour le prendre, parce qu'ils sont intellectuels, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils ont une relation, parce qu'ils ont épousé la fille, de pouvoir travailler avec. Et ce sont ces gens-là qui prolongent de manière longue la vie de leur femme de ces dictatures. Que ce soit en Libye, mais que ce soit aussi au Togo. Alors, ça étant dit, le mot alternance, il ne faut pas le galvauder et il ne faut surtout pas jouer à l'hypocrite. Ce n'est pas un problème d'individu. D'ailleurs, vous êtes aux États-Unis, quand il y a un changement d'administration, c'est l'ensemble d'administration qui change. Vous le voyez à la Maison-Blanche, ça va jusqu'au cuisinier. Voilà ce qu'on appelle d'abord une alternance. Deux, le problème, allons plus au fond. Ce n'est pas une histoire d'individu, c'est une histoire d'idées, de politique, de vision de société. Quelle est la vision de société que vous voulez proposer? Est-ce qu'il s'agit de dire aujourd'hui, le RPT dit, quand l'argent arrive au port du Togo et qu'on fait des recettes qui sont multipliées par 5 ou 6 actuellement et qui ne déclarent que 1 dans les comptes du budget et 4 disparaissent, est-ce que c'est ça, cette alternative vision pour le Togo que nous voulons? Ou bien nous voulons que l'ensemble de l'argent qui sort du port soit d'abord transparent, que nous sachions quel est le montant exact, que nous donnions ce que nous avons à donner au budget, mais que nous prenions une partie, par exemple, que nous envoyons directement, par exemple, à l'hôpital de Cara ou l'hôpital de Lomé ou l'hôpital de Sotoboa. Ce qui va permettre aux médecins-chefs de chacun de ces hôpitaux de pouvoir acheter ses seringues, s'organiser, faire en sorte de sauver des vies. Et vous voyez que l'État n'intervenant pas directement, il est fort probable que nous sauvions beaucoup plus de vies que si l'État devait prendre l'argent et le rétrocéder à ses hôpitaux. Dans les trois quarts du temps, ça ne vient même pas. Et quand ça vient, une bonne portion disparaît. Donc il s'agit d'une vision de la société. Et cette vision, il va falloir la présenter au peuple togolais d'une manière ou d'une autre, et que ce peuple togolais en soit conscient et l'accepte. Parce que le problème, le peuple togolais peut très bien dire « Non, je préfère que 1 aille dans le budget, à la sortie du port, et que 4 soit parti à l'honneur de Paris. par exemple, et que ces quatre-là, nommés de ce charme, vous les donnez discrètement à la tête du client, suivant que vous êtes joli, teint clair, ou moins joli, teint noir, par exemple. Et à ce moment-là, ben, le Togolais s'organise aussi. Ils vont s'organiser que dans leur famille, il n'y a que des filles ou des garçons teint clair, et pas des filles et garçons teint noir, et des têtes pas beaux. Donc, ce sont des choix de société. Le problème, c'est que le Togolais croit qu'il est neutre dans cette histoire, le peuple togolais lui-même. Et donc, il attend, et puis finalement, il ne fait pas de choix, parce que son choix devient prioritaire au niveau économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mange d'abord. Ça devient anthropologique, ça devient fondamentalement, je n'ai pas à manger. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Et on constate à ce moment-là qu'à partir où on a besoin de manger, on ne fonctionne pas normalement, puisqu'on donne une priorité trop importante au ventre, alors que l'ensemble du corps a besoin de fonctionner. On a besoin de culture, on a besoin de tourisme, on a besoin de savoir ce qui se passe dans les familles, on a besoin de planning familial pour que les femmes ne font pas 5, 6, 7 enfants, que 18 ans, 20 par après, ça devient des chômeurs, et que demain, ils partent à l'immigration et qu'ils ne se sentent pas. Voilà des comment la vision du taureau dans 10, 15, 20 ans sera. Je n'ai jamais entendu ça d'abord de Fournier, ni de son père d'ailleurs en parenthèse. Donc ils ont fait une gestion sur 40, 50 ans, c'est une gestion de la journée, c'est sur des gestions du quotidien, sauf qu'avec la force militaire dont on a parlé au début, d'abord interne et souvent clanique, et soutenue de l'extérieur, vous voyez qu'ils peuvent perdurer en longueur. Il suffit de contrôler les points décisionnels et y mettre des gens qui finalement se disent, écoutez, moi j'y suis arrivé, je m'assois là et je m'en sors, et d'ailleurs j'ai la paix, je n'ai plus à me battre. Rajoutez dessus les réseaux ésotériques, parce qu'il y a aussi cela. Écoutez, on ne va pas citer les noms ici, mais ils sont nombreux, qu'ils soient religieux, non religieux, sataniques ou pas sataniques, ils sont tous là pour une cause commune qui est celui de ne pas aider le peuple togolais.
D'accord. Vous avez parlé de priorité, vous avez évoqué des priorités plutôt dans analysant. Que pensez-vous être les priorités des populations togolaises?
La priorité, c'est pas compliqué, c'est celle que nous connaissons tous. Un être humain a besoin tout simplement de vivre. Pour vivre, pas survivre, mais vivre. Ça veut dire qu'il doit pouvoir manger, si possible à faire ça, et de manière autonome. C'est important le mot autonome. Je n'ai pas envie que Mme Farida me donne mon igname et mon manioc tous les jours, que je me mette à genoux pour l'avoir. Non. Il faut qu'elle me donne un moyen que moi-même je cultive mon igname et mon manioc, et si j'ai un surplus, je l'exporte ou je le lui donne. Donc il faut que ce soit autonome. Il faut que je puisse me vêtir. On ne se promène pas tout nu au Togo. Donc il va falloir que je m'organise. Ça veut dire que le coton aurait pu être transformé à Lomé ou à Togo. On avait Dakar, on l'a mis par terre, et donc on ne produit ni du fil, encore moins du tissu, encore moins, bien sûr, les boutons qui vont avec. Il va falloir bien sûr se couvrir, donc il faut un toit. Quel est le Togolais qui n'a pas envie d'acheter un terrain et d'avoir sa maison dessus? Donc il faut un toit. Ça veut dire qu'il faut en réfléchir. Faut-il lancer tout notre argent dans Simao, qui est une structure qui fait du ciment? Savez-vous que quand vous faites une maison à partir de ciment au Togo, et que vous le faites aujourd'hui avec la brique, qui est à partir de notre argile, qui est gratuite, la terre rouge que vous connaissez, cuite, elle peut être stabilisée, mais si vous la faites cuite, vous savez que la différence peut aller de 1 à 10. C'est-à-dire qu'une maison qui vous coûterait en gros un F3, F4 à 10 millions avec la brique, va vous coûter 40, 50 millions en ciment. Sans compter tout l'intérieur que vous devez encore acheter l'extérieur en porcelaine pour votre salle de bain, etc. Voici des choix de société. Donc, si quelqu'un vient au pouvoir, on va le conseiller de lui dire, mais écoutez, mettez l'accent sur la brique rouge. Mais en plus, vous n'avez pas besoin de peinture. En plus, quand vous faites bien et que vous doublez, ça fait baisser la température à l'extérieur. Quand il fait 38 degrés à l'extérieur, vous avez 28 à l'intérieur de votre maison. Et si vous mettez des carreaux blancs en trop, ça le diminue encore de 5. Vous donnez à 25. Imaginez les gens qui n'ont pas l'argent pour acheter une climatisation. Regardez l'économie que vous faites, en termes énergétiques par exemple. Donc ce sont ces choix de société-là. Je rajoute, il vous faut la santé. Comment vous allez vous faire la santé si vous n'avez pas une assurance si vous tombez malade? Vous n'allez pas à chaque fois aller acheter des médicaments qui traînent dans la rue alors que le soleil est à 40 degrés. Vous n'allez pas aller à l'hôpital où finalement c'est un mouroir, et quand vous êtes mort, même votre corps, l'électricité est coupée et votre corps sent mauvais, et les gens pour le sortir doivent payer encore de la corruption pour pouvoir récupérer votre corps. Quand ce n'est pas découpé, quand on vous enlève votre foie ou je ne sais trop quoi pour vendre à gauche et à droite. Voici encore pour la santé. Et enfin, le plus important peut-être, la liberté d'aller et de venir, la liberté de s'exprimer, nos journalistes, nos médias, la transparence, pour que le lien social, la cohésion sociale fonctionne, parce qu'il n'y a pas de problème nord-sud au Togo. Ce sont des gens qui ont monté ça pour justement antagoniser les populations. En fait, ce qui se passe, regardez bien, les femmes du sud, elles sont mariées avec les gens du nord sont mariées avec les gens du sud. Regardez, aucune famille ne peut se permettre de dire qu'il est seul dans son coin. On a même mélangé beaucoup plus profondément, jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina, jusqu'au Mali et même jusqu'au Nigeria. Donc, il faut cesser ces choses-là et revenir à ce que Nkrumah nous avait dit, que l'Afrique doit s'unir, mais sur la base d'un fédéralisme qui peut tomber jusqu'au niveau des régions, c'est-à-dire qu'il faut refaire des découpages régionales, aller vers un Togo fédéral, et à ce moment-là, les têtes de pont vont émerger, vont être élues dans leur région d'abord, ils sont représentatifs, et à ce moment-là, vous le montez au niveau d'un parlement qui devient fédéral, un peu le système américain.
Mais quand vous passez quand vous parlez de l'État fédéral, par exemple, ne pensez-vous pas que le Togo est trop minuscule pour avoir le système fédéral, et ne pensez-vous pas qu'il y aurait plus de difficultés à gérer un système de ce genre, du fait que la population et les richesses ne sont pas plus ou moins assez également réparties dans les différentes régions du Togo?
Non, si vous dites ça, c'est que vous êtes complètement, on vous a complètement lavé le cerveau dans le monde occidental, et c'est ce que j'appelle une approche eurocentriste. Il faut avoir une approche afrocentriste. Quand vous dites que ce Togo est minuscule, prenez votre corps, vous avez deux bras, vous avez une tête, vous avez un pied. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas vous lever et dire que le pied, la tête et le bras, chacun est chef chez soi. Ce n'est pas possible. Vous êtes interdépendant. Et donc, dans l'interdépendant, vous avez des spécialisations. Le bras ne fait pas ce que fait le pied ne fait pas ce que fait la tête. Donc, c'est la même chose pour un État. Donc, la notion de taille en tant que telle n'a pas d'importance. C'est la notion de représentativité. Si vous avez 1000 personnes dans la région du Kara et que vous devez avoir 2 députés, vous ne devez pas arriver vers la région de Sotobois où vous avez 5000 personnes et vous n'avez que 2 députés. Ça ne va pas. Il faut donc trouver une proportion qui respecte la population. Donc à ce moment, et c'est ce qu'on appelle le découpage, et que justement les gens de la région du Kara aujourd'hui au Togo sont surreprésentés par rapport aux gens qui sont du Sud. Ce qui est anormal. C'est une sorte de problème de densité, d'un problème tout simplement d'équilibre et d'égalité entre les populations. Ça, c'est la première chose. Donc, je liquide votre approche en disant on est minuscule. Deuxièmement, vous avez une approche trop réductrice. Ce n'est pas limité au Togo, c'est limité à l'ensemble de l'Afrique. Dans tous les pays africains, nous devons avoir des sous-régions et des petites régions. Si on l'avait fait au Nigeria, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Si on l'avait fait dans l'ensemble des pays africains, on n'en serait pas là aujourd'hui. D'ailleurs, les gens de Paliné, ils travaillent plus avec les gens du Ghana à cause de la frontière plutôt que les gens de l'autre côté. Et puis, n'oubliez pas que les frontières ont été coupées par les colons du nord au sud. Si on les avait coupées horizontalement, la plupart des régions, la plupart des populations se sont en train de parler non seulement la même langue, mais en plus de mieux s'entendre. D'ailleurs, c'est ce que voulait faire Sylvain Nkrumah au départ quand il voulait créer le Evenland. Sauf qu'il ne faut pas le faire sur une base ethnique, mais sur une base d'échange des populations. Et dernier point que je dois rajouter sur cette approche-là, ne tombez jamais dans le piège de dire que quelque chose est minuscule ou quelque chose est grand. On a bien des pays, prenez de Singapour et Taïwan et autres, ils sont minuscules, regardez leur produit national brut et leur richesse. C'est pas parce que vous n'avez rien que vous ne pouvez pas créer, justement, au contraire. Ça va vous amener à utiliser votre cerveau et justement aller importer, travailler et être les produits aujourd'hui dans tout ce qui est électronique, par exemple. Donc, la notion de minuscule n'a aucun sens en économie. Ce qui se passe, c'est un problème d'information. Les gens ne sont pas informés comment on fait pour introduire du contenu technologique dans un dossier. Parce que quand vous introduisez un contenu technologique, alors vous comprenez que, au lieu de continuer à avoir votre papaye et de manger une papaye qui est très bonne d'ailleurs par la même occasion, avec ou sans citron, vous avez intérêt à aller chercher les chimistes togolais, les faire regarder au microscope, voire même beaucoup plus petit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et vous allez découvrir la papayine. Et vous allez voir qu'avec la papayine, non seulement vous soignez un certain nombre de maladies, mais en plus c'est extrêmement bon pour la peau, vous les femmes qui voulez être belles, utilisez par exemple la papayine. Je ne parle que de la papayine. Prenez le karité, vous le connaissez même mieux que moi. Savez-vous qu'on peut enlever l'odeur dans le karité? D'ailleurs c'est fait en Occident. Mais nous continuons nous, à vendre du karité, à le mettre sur notre peau et ça sent très mauvais. Donc, etc., etc., etc. C'est-à-dire que nous ne faisons pas l'effort de transformer une matière première brute en quelque chose qui satisfait les besoins de nos populations. Et donc, nous ne sommes pas dans l'économie de proximité.
Mais quand vous parlez de la, par exemple, du système fédéral, par exemple, ne pensez-vous pas que, je ne sais pas, il serait mieux de parler de décentralisation du pouvoir sans pour autant vouloir faire de tous les États, des États fédéraux avant de penser à créer un système régional? Bien sûr que certains pays sont fédéraux, d'autres ne le sont pas. Par exemple, la France n'est pas un État fédéral, l'Allemagne l'est.
Mais c'est justement pour ça qu'elle a des problèmes. parce que tout est centralisé à Paris. Et donc, à partir de l'heure centralisée, qu'est-ce qui se passe?
Par rapport à la France, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que une fédéralisation est une condition sine qua non pour le développement? Nous ne pouvons pas tout simplement décentraliser le pouvoir.
Non, vous êtes complètement phagocyté. Vous êtes complètement phagocyté. pas le monde occidental. La notion de centralisation, telle qu'elle existe, elle est très eurocentriste. Si vous regardez l'histoire de l'Afrique dans les anciens siècles, moins 3000, mais 4000 avant Jésus-Christ, au temps des pharaons, vous le voyez de manière plus récente, moins 4, 4e siècle, 5e siècle, 6e siècle, bien avant la colonisation, la plupart de nos États étaient autonomes. Pourquoi nous avons des chefferies? Pourquoi nous avons des rois de Bidi, rois de ceci, rois de cela? Pourquoi nous avons toutes ces choses-là? Parce que ce sont des autonomes, ce sont des entités autonomes. Mais comment ils font pour travailler avec le voisin? On avait des ambassades officielles, des gens parlent 2, 3, 4 langues locales, aller voir le voisin pour dire, écoutez, on a appris que quelqu'un a piqué votre vache, on vous le ramène paisiblement. Souvent, de temps en temps, on se tape dessus, mais ça s'arrête à des couteaux, à des fagots, ça ne va pas plus loin. Il y a des gens qui ont amené la mitraillette. Aujourd'hui, c'est la bombe atomique. Ils ne discutaient pas. Ils ont régné notre culture. La plupart de nos cultures ancestrales ont disparu en nous faisant croire que c'est mauvais, méchant, alors que nous prions le même Dieu. Ils ont régné notre façon d'organiser la société pour que personne ne reste sur le carreau. Nous apprenons que quelqu'un qui a tué doit demander pardon, ça doit être accepté, et il paye pour sa paye. Il ne va pas aller traîner dans des prisons. D'ailleurs, nous n'avions pas de prison en Afrique. Vous savez, voilà une culture. On n'avait pas de prison en Afrique dans l'histoire. Sinon, on ne savait pas ça. Pourquoi on ne peut pas développer ça? Alors, je reviens sur votre question. Votre question ne peut pas être du centre vers la décentralisation. Ce n'est pas du centre vers la zone. Mais quand vous mangez votre manioc, le manioc ne vient pas de la capitale de l'Omé pour aller à ce... C'est les gens de Boto-Boua dans leur village qui sont allés se fatiguer de 4h du matin jusqu'à 15h pour faire leur manioc en quantité suffisante pour qu'eux-mêmes mangent d'abord, qu'ils mettent dans un taxi que vous le mangez à l'Omé. Vous ne pouvez pas maintenant être à l'Omé leur donner des instructions là-bas à Sotoboua. Ça veut dire que l'Occidental vous a tellement nettoyé le cerveau que finalement, François Fanon peut-être a raison. Il faut revenir à la notion de l'économie de proximité. On doit commencer à produire dans la sous-région. Quand je fais du pain, c'est pour mon voisin, c'est pas pour le japonais, c'est pas pour le brésilien, c'est pour mon voisin. Et quand je fais ça, je dois aussi m'organiser en termes de représentativité avec mon voisin, celui que je connais. Et c'est celui-là qui me représente, parce qu'il n'est pas trop loin de moi. Et il connaît mes problèmes. Et parce qu'il les connaît, il va mieux les défendre. Et quand j'ai confiance dans celui-là, je peux lui dire maintenant d'aller me représenter là-bas à Lomé. Et donc je monte du bas vers le haut, et non pas du haut vers le bas. Et c'est l'erreur fondamentale que l'Occidental a mise dans la tête de la plupart des Africains, qui continuent à véhiculer et qui leur créent d'énormes problèmes. Et bien sûr, ça permet la non-transparence. Bien sûr, ça permet la corruption, puisque quand vous volez et que c'est le centre qui dit, il suffit de vous envoyer quelques militaires, vous allez vous taire. Vous voyez? Alors que si c'est fait dans la sous-région, et que vous avez volé le petit William qu'a fait le petit voisin de Sotoboua, mais tout le village va vous crier après. Donc vous organisez, vous réorganisez la justice à l'intérieur de votre système. Et ce système, vous allez pouvoir l'exporter. Vous allez même prendre des références sur le voisin. Ah, comment on fait à Palimé? Comment on fait à Kara? Comment on fait à Dapaon? Et quand vous voyez chacun fait à sa manière, on se réunit, on dit, mais quelle est la meilleure pratique? Et on va même l'adapter pour tout le monde. Et à ce moment-là, oui, ça remonte. Pourquoi vous croyez que l'OMC ne marche pas aujourd'hui? Parce que celui qui dirige l'OMC a voulu imposer les règles commerciales du haut vers le bas. Les règles qui arrangent les grands pays occidentaux. Mais quand les pays africains, les pays pauvres ont commencé à comprendre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, niet. Donc on ne veut plus de votre système. Maintenant, si vous ne voulez pas manger l'igname, on ne va pas produire l'igname, on ne produit d'ailleurs rien pour vous débrouiller. Écoutez le café, le cacao, vous allez voir si aux États-Unis là-bas, vous allez pouvoir travailler toute une journée. Combien de fois ils boivent le café? Combien de fois ils boivent le cacao par jour? Alors ils mettent un peu de vanille, machin, ils disent que c'est chez eux. Mais c'est le produit qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils veulent faire tout ça? C'est qu'ils modifient les termes de l'échange. Pour qu'on leur donne systématiquement, gratuitement. Pourquoi ils veulent la compétition? Pour que tout le monde envoie le café, chaque pays envoie le café individuellement, sans se parler, pour que les prix baissent. Comme ça, ils les ont pratiquement gratuitement. Et en plus, ils vont vous dévaluer votre monnaie. Non, il ne faut pas accepter le système du haut vers le bas. Il faut un système du bas vers le haut. Et la plupart des économistes actuellement qui sont... fini leurs études en Occident, ne font pas l'effort de déconstruire le système occidental pour le reconstruire dans l'afrocentricité.
Merci beaucoup. Si j'ai accroché à l'âme, nous avons lui demandé très gentiment de pouvoir déverrouiller la ligne de quelques auditeurs qui souhaiteraient poser des questions afin que nous puissions explorer cela quelques minutes avant notre départ. Docteur Amaïdo, nous allons continuer donc. Tout ce que vous avez évoqué laisse à croire que vous croyez toujours, je ne sais pas si c'est une approche panafricaniste ou si vous croyez en la possibilité de réunion entre les pays africains. Pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, où nous sommes dispersés à plusieurs niveaux sur le plan politique, économique et même des fois socio-culturel, il est encore possible pour les pays africains de se réunir et d'avoir une politique commune vis-à-vis des autres régions du monde?
Vous êtes en train de me dire, si je vous comprends bien, que si les Africains ne pourront pas demain ou après-demain se réunir, se retrouver, s'unir, ça veut dire que nous sommes morts. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas morts. Pour tout, nous sommes vivants. C'est un corps vivant, donc dynamique. Le dynamisme a de la vitesse. On n'est pas la vitesse occidentale. On n'est pas la vitesse chinoise. On a une vitesse africaine. Chacun peut dire si c'est l'an, si c'est l'escargot, la tortue ou l'animal. Dans tous les cas de figure, c'est quand même une vitesse. Attention, c'est une vitesse qui ne laisse pas les gens derrière. C'est très important. Nous avons le solidarisme comme fondement, fondement de notre système. Alors oui, ce n'est pas que je crois nécessairement que c'est l'avenir qui dit ça. Quels sont les pays qui sont encore propres aujourd'hui où il n'y a pas de la pollution? L'Afrique. Quel est l'espace où il y avait la paix avant que des gens décident d'aller faire la pagaille en Côte d'Ivoire et faire la pagaille en Libye sans même respecter ce qui était marqué au Conseil de sécurité? C'est encore l'Afrique. Où est-ce que le peuple lui-même est allé faire un Vatican copie conforme? C'est encore en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est sur la terre africaine qu'on trouve la paix. Mais où est-ce qu'on va chercher à manger d'ailleurs? C'est sur l'Afrique. Où est-ce qu'on trouve les matières premières les plus importantes en Afrique? Quel est le plus grand stock de diamants en Afrique? C'est au Zimbabwe. C'est encore l'Afrique. Etc. 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 Maintenant voilà. Si on laisse les gens la développer cette histoire-là, ah, ceux qui en ont beaucoup moins peuvent demain matin avoir des difficultés. Et même avec leurs armes, c'est compliqué parce que si vous avez la marge de manœuvre économique et donc rapidement un pouvoir militaire, vous allez pouvoir aussi dicter votre loi. Et du coup, vous n'allez plus accepter cette compétitivité qui fait que tout le temps, le salaire va baisser. Mais comment voulez-vous devenir autonome si tous les jours, vous n'avez pas de salaire? Les gens ne se rendent pas compte que c'est en fait en donnant un salaire digne, décent, qui fait que le monsieur qui a eu son salaire va aller acheter le petit igname, le colico au bord de la rue, et puis faire que la dame là-bas va pouvoir nourrir 2, 3, 4 enfants. Et si on le fait mieux demain, pour monter un restaurant. Donc nous avons contribué à créer une nouvelle vie, une nouvelle famille. Donc vous voyez, ce sont des approches intégrées qu'il va falloir comprendre. Et ça, bon, il faut le faire de manière afrocentrique. C'est la conception africaine qu'il faut accepter. Il faut stopper la frustration, il faut stopper les gens qui sont complexés, il faut stopper les gens qui n'ont pas compris ce qu'ils ont appris à l'école. Mais c'est aussi une éducation de maison. Donc, si ils ont quitté un pays 40 ans, 50 ans, où est le problème? Le problème est que quand ils veulent revenir, qu'ils fassent au moins l'humilité de comprendre qu'il y a une autre façon de vivre. Les Occidentaux, on leur montre, et ils courent tout le temps. Nous, souvent, on n'a même pas de montre, mais on sait quelle heure il est. Parce qu'il suffit de regarder le soleil. C'est une autre conception du monde. Il faut que l'Africain se mette ça dans la tête d'abord. Et si, oui, mais la renaissance africaine, le fait de travailler ensemble, le fait de revenir dans la diaspora, ce n'est rien du tout. La preuve, les Chinois l'ont fait. Pourquoi la Tunisie a eu son printemps arabe? Savez-vous que parce que la présidence des Tunisiens gagnait beaucoup d'argent en Libye? Et que quand les Occidentaux sont venus mettre la pagaille en Libye, ils ont en fait détruit le travail non seulement des Tunisiens, mais ils ont cassé toutes les entreprises italiennes qui étaient là-bas justement décentralisées ou déconcentrées. Et du coup, les gens sont rentrés où? En Tunisie. Mais qui? C'était des intellectuels, c'était des gens travailleurs, c'était des techniciens. Ce sont des gens qui ne supportent pas la dictature. Et donc ils ont dit, écoutez, ce monsieur doit partir. C'est la même chose qui va arriver en Afrique. Ça prend le temps que ça prend. Mais ne vous étonnez pas là-dessus. Aujourd'hui, ce sont les pauvres gens qui sont restés, qui n'ont ni les armes, ni souvent le cerveau, parce qu'on ne va pas donner la possibilité d'aller à l'école. Et quand les Occidentaux vont vous pousser à bout, et quand on verra que l'avenir en Occident ne tient plus parce que les impôts seront tellement élevés, regardez quand vous aurez même l'argent en Afrique en tant que diaspora, on vous vole jusqu'à 30%. Alors que ce sont des zones monétaires sur lesquelles on devrait pouvoir transférer sans presque payer rien du tout. Alors, l'Africain va comprendre que non, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du monde, est en Afrique là-bas. D'ailleurs, je vous informe qu'on vient de trouver au Niger un sphinx, là en face, des pyramides, qui ressemble comme deux gouttes d'eau en miniature à ce que vous avez en Égypte. Et donc, la grande théorie des égyptologies, des objets égyptologues, risque de tomber dans les années à venir. C'est-à-dire que l'origine n'est même pas en Égypte là-bas, elle est bien au centre d'Afrique, dans le coin là-bas comme Niger. Et vous serez étonné, la vallée des morts, on le retrouve au Niger. Et c'est typique, la même construction. Et devinez qu'à l'intérieur, on a trouvé plusieurs tonnes d'or. C'est-à-dire que c'était en fait des éléments de nécrologie qui permettaient de monter la richesse de ces cultures dans le temps. Donc l'homme noir, la femme noire, n'avait pas pour objet d'accumuler pour opprimer. Il n'avait pour objet d'accumuler pour qu'un jour dans le village, ça se faisait chez les Ashanti au Ghana, ça se fait aussi au Burkina et autres, un jour dans le village, tous ceux qui sont pauvres, tous ceux qui sont pauvres viennent, expriment leurs problèmes, et le roi, il est roi parce qu'il donne, il est roi parce qu'il prend sur la richesse accumulée, volontairement pour donner. pour que l'ensemble du village monte. On appelle ça en économie le pouvoir d'achat de tout le monde. Seulement voilà, nous avons vu ça à la poubelle. Parce que l'Occidental nous a tellement lavé le cerveau que nous sommes devenus le cerveau lui-même plus blanc que le cerveau originel que Dieu nous a donné.
D'accord, merci beaucoup, docteur Amaïzo. Je pense que nous avons quelques questions des auditeurs. Si Jacques Roger est là, nous allons lui demander de nous poser ses questions et de vous faire parvenir ses questions. Jacques Roger?
Oui, oui, mademoiselle Farida, nous avons, disons, trois questions. Une question d'un frère du Mali, voilà, qui pose la question. Il dit, est-ce que votre invité croit au panafricanisme? Est-ce qu'il pense que le panafricanisme est la solution actuellement pour le continent africain?
D'accord, je vais poser une question plus ou moins un petit peu similaire, mais bon, si docteur Amaïzo pourrait revenir, ben, c'est très intéressant.
Alors, je remercie d'abord pour la question. Alors, encore une fois, vous savez, quand vous posez vos questions, il faut toujours savoir ce que vous dites. Le panafricanisme n'est pas un concept qui est magique. C'est pas parce que je vais croire ou ne pas croire que l'Afrique va s'arrêter. Alors, je vous réponds, oui, je suis panafricain, oui, je crois au panafricanisme. Mais ce n'est pas le panafricanisme qui est la solution. Parce que j'ai attaqué l'Union africaine, j'ai attaqué l'Organisation de l'Unité africaine sous le concept que l'Union africaine utilise. Quel est ce concept? C'est l'unité africaine. Est-ce que vous avez d'abord vu l'unité des Africains? Non. Est-ce que vous avez vu l'Union africaine? Non. Ça veut dire que le concept de l'Union africaine ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que j'ai proposé? J'étais un des experts d'ailleurs de Kadhafi quand ces histoires des États-Unis d'Afrique se sont mises en place, que Nkrumah a fait depuis 1963. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, même Nkrumah, j'attaque sous le fondement de l'unité africaine. Le panafricanisme, d'abord, ça se fait en dehors des frontières africaines. Regardez bien, ce ne sont pas les Africains qui ont mis en place, ce sont les gens en dehors de l'Afrique, dans la diaspora africaine, notamment dans les îles. Non, la deuxième chose qu'il faut dire là-dessus, c'est que le concept, le paradigme doit être changé. C'est l'interdépendance africaine. J'ai besoin de Farida. Farida a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de notre ami malien qui m'a posé la question. Nous avons besoin les uns des autres. C'est ça le fondement du panafricanisme. Et quand je le comprends, alors je m'organise et je deviens spécialiste. Le malien va me fournir du coton parce qu'il est le meilleur. Le togolais va lui fournir l'igname parce qu'il n'est pas mauvais dans l'igname. Le guinéen va lui fournir des oignons parce qu'ils sont très forts dans les oignons ou dans les pommes de terre, etc. Il faut que nous comprenions notre interdépendance. J'ai même fait un livre pour dire qu'on est passé de la dépendance, non pas à l'indépendance, mais nous sommes passés de la dépendance à l'interdépendance. Mais nous n'avons pas compris le mot interdépendance, parce que ça a des règles, et ces règles sont démocratiques. On ne peut pas imposer à un tel ou un tel ou un tel de faire quelque chose. Je dois vous convaincre, je dois convaincre Farida de ce que je dis, sinon vous n'allez pas être d'accord avec moi. Et si je ne peux pas vous convaincre, je vais expliquer. Si vous n'êtes pas convaincu, bon, on va constater qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'on va se tuer. Donc oui, je suis panafricaniste, non, je ne suis pas pour un panafricanisme, D'ailleurs, comme ont fait les gens du FIANFI, pour croire qu'il suffit de le proclamer, les choses vont fonctionner. C'est pour ça que vous voulez soutenir tous les grands du panafricanisme et que vous allez croire que les choses vont bouger. Non, il y a eu des erreurs dans le processus et ces erreurs sont souvent économiques. On ne peut pas se lever sans penser que, écoutez, si vous ne vous levez pas pour nettoyer un trou et le boucher, écoutez, le trou sera toujours là. Donc il faut être pragmatique. Et la pragmatisme ne commence pas par les grandes idées, ni par les grands États, ni par les centres, mais en fait, la possibilité. Il faut que moi et mon voisin, nous puissions trouver comment nous vivons ensemble. Et quand nous trouvons des règles communes qui tiennent la route, nous les tendons au voisin qui est à côté. En respectant bien sûr sa liberté. Voilà encore l'idée. Et alors, un deuxième élément du panafricanisme, c'est qu'on ne peut pas accepter uniquement la loi de la majorité. Voilà la grosse erreur que l'Occidental nous a mis dans la tête. Ce n'est pas vrai que l'Afrique a fonctionné sous la loi de la majorité. L'Afrique a fonctionné au contraire, sous la loi du respect de l'autre. C'est souvent des minorités qui ont gouverné des États. Regardez les Ashantis, ils sont plus importants. De très souvent, c'est pas Nkrumah, mais c'est pas Ashanti. Regardez bien. Donc, c'est toujours des minorités souvent qui viennent. Regardez au Sénégal, Senghor n'était pas parmi les grands musulmans. Pas du tout, au contraire. Même moi aujourd'hui. Donc, vous voyez, nous avons une faculté extraordinaire africaine qui consiste à respecter l'autre. Et nous pensons même que c'est parce que l'autre, le plus faible, est respecté que l'ensemble du groupe respecté. Mais l'Occidental est venu. Il nous dit quoi? Ah, là, la majorité. Et là, ça crée la pagaille. Vous allez voir ce qui s'est passé au Burundi, au Rwanda. Parce que c'est là, la majorité. Mais écoutez, ça ne marche pas. Et nous n'avons jamais fonctionné comme ça, d'ailleurs. Sauf qu'il y a eu 500, 600 ans d'esclavage, et chacun croit que l'Afrique a commencé il y a 500 ans. Non! Tout au noir américain, qu'on était là au temps des pharaons. Et qu'on va leur démontrer aujourd'hui que l'ensemble de 3 ou 4 siècles sur lesquels les pharaons ont vécu étaient noirs. Et peut-être même qu'on va aller plus loin, qu'on va peut-être découvrir que le monsieur Abraham, qui a créé le judaïsme, qui a créé le christianisme, qui était la base de toutes les lignées, vient d'un noir qui s'appelle Melchizedek d'ailleurs, et qui vient de la Nubie. Donc vous voyez, il y a des éléments que nous fondons qui prouvent que le panafricanisme venait de très 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 loin, et qu'il est organisé sur des bases de travail en commun que nous avons perdu avec le temps, à cause bien sûr de cette exploitation qui a enlevé l'ensemble de notre force et nos richesses un peu à gauche à droite dans le monde.
La deuxième question est de monsieur... Oui, la deuxième question de M. Kodjo, donc de Paris, qui pense que votre invité est beaucoup plus idéaliste, que ces, pratiquement ces solutions ne seront applicables que dans un état de droit ou bien en Europe. Mais en Afrique, quand il prend le cas certainement de son pays, le Togo, il pense que quelle est la solution de votre invité par rapport au blocage politique? Toutes ces meilleures idées que votre invité a, pense que ne peut se mettre en pratique si on trouve une solution sur le plan politique. Quelle est, lui, sa solution de sortie de crise ou bien sa solution pour que les intellectuels puissent aller développer ses meilleures idées, certainement en Afrique et précisément au Togo?
Alors, je remercie M. Kodjo pour sa question. Je vous informe que je suis aussi un coordonnateur d'une structure qui s'appelle le Collectif pour la vérité des urnes. Et puis, nous avons fait une proposition sortie des crises après les élections volées au Togo. Donc je l'invite d'abord à aller regarder le site togo-diaspora.org. S'il n'a pas l'information, qu'il demande à Mme Farida. Ça c'est un d'abord. Nous avons fait des propositions très pragmatiques, très très pragmatiques. Maintenant, revenons à sa question. Pourquoi on ne peut pas trouver des solutions aujourd'hui? Et on ne peut pas dire que ce sont des solutions occidentales ou c'est des solutions théoriques ou c'est des solutions qui s'appliquent en France. On ne peut pas le dire. Et je vais vous dire pourquoi il ne peut pas le dire. Parce qu'il n'est pas vu, qu'il n'a pas regardé qu'il est le point fondamental de n'importe quelle base politique n'existe pas, c'est-à-dire l'interdépendance entre les gens qui veulent l'alternance au Togo. Ils sont où, cette partie politique togolais, ou à l'intérieur, vous avez la démocratie. Dites-moi, M. Kodjo, lequel de ces groupes politiques, partis politiques, où on peut dire aujourd'hui au Togo que le chef a été choisi sur des bases démocratique et que les gens ont voté à bulletin fermé ou bulletin caché et qu'on sait qu'il y a fait 35, 45, 55, 65%. Ils ne sont pas là. Donc comment voulez-vous que quand ce système se met en place, un occidental, la communauté internationale, les Nations Unies soutiennent des gens qui ne font pas mieux que celui qui est au pouvoir? Ça c'est un. Donc il y a un problème d'abord interne de comment nous concevons la notion de représentativité. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce groupe-là, vous avez des gens qui, eux, je vous ai dit au début, n'ont pas de légitimité ou ne pourront pas se l'avoir. Donc leur politique, c'est de ne jamais avoir la démocratie, c'est de ne jamais avoir une alternance. Au contraire, qu'il y ait des coups d'État, qu'il y ait des problèmes, etc., pour qu'eux émergent et apparaissent ici et là, chef de ceci, premier ministre, je ne sais pas quoi, ministre, je ne sais pas quoi, etc. C'est eux qui font perdurer le système. Donc il faut bien comprendre quel est le problème, pourquoi le système dure d'abord. C'est très important. Troisième chose maintenant, ne croyez pas que nous avons affaire seulement à une opposition ou le parti au pouvoir. Non, ce parti au pouvoir, il y a des gens à l'intérieur qui ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Mais vous avez affaire avec des forces extérieures, beaucoup plus puissantes, qui gèrent le pays. Allez voir la présidence, vous allez voir plus de blancs cachés que de noirs. Savez-vous que eux, de Libanais, ont le passeport diplomatique, plus de Français, ou d'autres pays ont le passeport diplomatique, alors que vous et moi, on ne l'a pas. Alors, quand vous mettez tout ceci ensemble, quelle est la solution? Mais la solution, elle doit d'abord passer par des gens qui se parlent. Et sincèrement, dites-moi quand est-ce qu'ils se sont parlé. On a eu code 1, code 2, plein de choses, mais chaque fois, il y a eu des traîtres dedans et les choses se sont passées. Alors, je ne dis pas que la solution va se faire tout de suite. Je parle de marathon démocratique. Ça va prendre du temps. Il faut que le peuple togolais lui-même apprenne à choisir ses représentants. Et puis, vous allez dans une structure de proximité. Si vous commencez à choisir les gens dans les villes, dans les régions, dans les villages, et qu'ils ne soient pas usurpés, que le chef de village n'ait pas le droit sur tout le monde, mais s'il a été élu, qu'on l'ait choisi vraiment, vraiment cru, c'est lui, vous allez voir que quand vous allez remonter, celui qui va vous représenter, il va vous représenter. Sinon, vous le modifiez. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses beaucoup plus importantes maintenant, c'est qu'il faut aussi avoir beaucoup d'humilité et accepter que quelqu'un qui peut représenter l'ensemble du groupe le représente. Et regardez comment sont formés les chefs des partis politiques. Aucun n'accepte que son numéro 2, son numéro 3, son numéro 5 ne puisse le prendre l'ascendant sur lui. Je ne veux pas citer les partis politiques ici, vous les connaissez. Mais regardez bien. Et en plus, quand ils ont échoué, ils ne veulent même pas partir. Ils sont là. Ils veulent travailler longtemps. Même quand ils sont partis, ils sont encore là. Donc, quel est ce système démocratique qui consiste à toujours tirer les ficelles où il faut chercher tout simplement à être autocrate. Parce que c'est ça le fond du problème. Deuxième élément. Troisième élément maintenant, vous dites que ce n'est pas pratique. Mais que vous êtes précis. Quand vous avez une entreprise et que vous payez des salaires à des individus, mais demandez au chef d'entreprise togolais, vous serez étonné que 60, 70, 80% a comme mentalité de payer le moins cher. Regardez dans les familles, pourquoi vous gardez encore des filles qui n'ont même pas la majorité, donc des gens mineurs, qui nous faisons travailler des fois 18 heures la journée. Nous ne les payons même pas comme il faut. Et on fait croire qu'on met un peu d'épargne quelque part, et demain on va leur faire un peu de couture, et les trois cas sont déjà engrossés, en deux, trois enfants avant même de sortir. Et vous croyez que ce système va continuer toujours éternellement? C'est ça que vous dites la théorie? Non. Il faut revenir à vous-même. Et puis je vais poser la question, M. Kodjo. Est-ce que vous-même, vous avez besoin de lever pour faire quelque chose pour le Togo aujourd'hui? Dites-nous clairement ce que vous avez fait pour que la communauté de la diaspora vous écoute. Vous savez, les problèmes sont beaucoup plus complexes que vous pensez. Il ne faut pas se lever et dire que ce n'est pas faisable. Il faut vous lever et faire quelque chose. Quel que soit ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Et si vous ne pouvez pas le faire seul, téléphonez. Vous avez le CNDT, le Conseil mondial de la diaspora togolaise. Vous avez le docteur Mouzouki. Passons pas à essayer d'organiser les Togolais ensemble pour que s'il y a un Togolais dans la diaspora a un problème, au moins nous savons un endroit où nous pouvons téléphoner. Et vous prenons le téléphone, nous téléphonons. Vous savez que c'est nous, CNDT, qui avons téléphoné au Togo. Chauffer le Togo pour qu'on ne laisse pas nos frères là-bas mourir. Et pourtant, ces frères, une bonne partie étaient là-bas, comme des militaires, pour travailler pour Kadhafi. Donc, on ne peut pas nous dire ça à nous que nos victoires sont théoriques. Nous sommes très pragmatiques. Mais nous faisons attention, nous sommes des gens prudents, nous ne voulons pas des changements radicaux. Nous voulons la paix dans ce pays. Et la paix, ça se construit. Ça se construit avec des gens de bonne volonté. Donc, M. Kodjo, je vous demande de dire à l'ensemble des Togolais de la diaspora ce que vous faites pour le Togo. Et je suis sûr que vous allez trouver du soutien, à commencer par moi-même.
Merci, docteur Amaïzo. Je ne sais pas si nous avons encore une dernière question ou si nous avons suffisamment de temps pour pouvoir explorer celle-là avant de clôturer l'émission.
Oui, mademoiselle Farida, oui, je crois que vous pouvez directement aller pour clôturer l'émission. Nous avons quelques questions, mais puisque nous sommes pris par le temps. Allez-y, mademoiselle.
D'accord. Dans ce cas, je vous remercie beaucoup. Merci, Jacques Roger. Merci à tous les auditeurs et merci à vous, docteur Amaïzo. Mais avant de vous laisser partir, je vous ai rassuré un mot de fin. Quel est votre mot de fin vis-à-vis de la diaspora togolaise vivant aux États-Unis ou bien en Europe et de la diaspora africaine en large? Quel message avez-vous à leur endroit?
Le message, il est très simple. Il faut que ce soit la diaspora togolaise, que ce soit la diaspora, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, que ce soit la diaspora des autres pays africains, vous êtes d'abord des Africains d'une grande culture, une grande culture du bon, de la solidarité et du travail ensemble, de la cohésion sociale. Ne l'oubliez pas quand vous êtes dans un pays où on vous apprend l'individualité. On vous fait oublier l'harmonie. Pensez d'abord à ça. Deuxième chose, pour que vous existiez, il faut que vous demandiez à vos États de vous recenser. Il faut que nous soyons des gens qui comptons, que les ambassades ne donnent pas seulement des passeports, mais qui nous disent que nous existons. Et du coup, donne une représentativité, soit par des postes, soit par des représentativités, soit par un budget dans le budget de l'État. Alors oui, la diaspora a un tout petit peu plus de moyens pour s'organiser. Sinon, nous restons à la merci des gens qui nous donnent leur carte de séjour et quand ils décident, ils nous l'enlèvent. Dans la diaspora, levez-vous, nous existons. L'Union africaine nous a dit, nous sommes la sixième région d'Afrique. Levez-vous et pensez à France-Afrique. Vous irez loin.
Je vous remercie beaucoup, docteur Amaïzo. Je vous souhaite une excellente soirée. Excellente soirée également à tous les auditeurs. Et merci encore, Jacques Roger. Au revoir.
Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup, mademoiselle Farida. Voilà, c'était une très, très, très belle émission, d'ailleurs. Voilà. Alors, rendez-vous donc tout à l'heure avec nos frères Guinéens. Vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Jacques Roger Show sur NRI Radio.